Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Graphite 94.9 FM et Graphite.net en ligne. Je suis Stéphane Crozat et aujourd'hui, donc, c'est la première session de présentation des projets réalisés par les étudiantes et étudiants de l'Université Technologie de Compiègne dans le cadre du cours WE1 intitulé Questionner le web, un cours que j'anime avec mon collègue Quentin Duchemin. Donc, je suis en studio avec Fanny Le Sauze, Zoé Cosson, Mayanne Després et Timothée Meilleur. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour. Bonjour.
Et donc, donc comme je disais, on est réunis dans le cadre d'un cours qui s'appelle WE1. Alors, je ne vais pas vous faire tout le cours, mais pour donner quelques idées à nos auditeurs, qu'est-ce qu'on fait en WE1 ? Après, peut-être vous avez envie de dire aussi, hein, mais sinon, on parle de quoi ? On parle neutralité de la technique, histoire du web, fonctionnement de l'Internet, capitalisme de surveillance, droit d'auteur, culture libre. Bon, voilà une partie des thématiques. J'ai rien oublié, non ? C'est bon, vous vous souvenez de tout ? Ok. On va découvrir une partie de ces thématiques aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler notamment publicité. Donc Fanny et Zoé vont nous présenter du clic au concept la publicité. Ensuite, Mayanne et Timothée, capitalisme de surveillance et surveillance de masse, pardon. Voilà pour la présentation générale. Donc je vais laisser la parole à Zoé et Fanny pour démarrer avec du clic au concept. Deux points, la publicité. À vous de démarrer, c'est parti. C'est parti, donc on a dit voilà, ça démarre, allez c'est
Bonjour,
reparti.
Bonjour, nous sommes Fanny Le Sauze et Zoé Cosson, toutes les deux étudiantes en IM1 et ce semestre on suit du VWE1. Nous sommes donc là pour vous parler de la publicité et plus précisément de publicité sur le web. Nous commençons par vous expliquer brièvement le concept de publicité ciblée, puis nous vous présenterons un article de Pixel Tracking, un blog spécialisé dans le domaine de la surveillance, publié le 3 août 2021, intitulé « Avec les signaux résilients de Facebook, la surveillance publicitaire évolue ». On va donc s'appuyer sur l'article pour vous expliquer ensuite comment Facebook arrive à récolter vos données personnelles sur le web quand vous vous connectez, malgré les protections que vous désirez mettre en place, afin de ensuite les vendre à des publicitaires. Et que c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez de la pub sur les réseaux, et ainsi remplir vos algorithmes Insta, Facebook ou autres, des pubs qui vous concernent. Puis nous aborderons ensemble le concept de publicité programmatique, et je vais d'ailleurs maintenant donner la parole à Zoé.
Du coup, moi, je vais vous faire un petit point avant de commencer sur la publicité ciblée. Donc, lors de l'apparition de la publicité numérique, les annonceurs diffusaient un message général à une très grande quantité de personnes afin d'en toucher une petite partie. La publicité en ligne, elle a été optimisée par l'apparition du ciblage, l'objectif étant de réduire la quantité de personnes qui voient le message tout en optimisant le type de personnes touchées, afin que l'annonce soit pertinente en fonction du profil de chaque utilisateur. La publicité ciblée est possible grâce à la collecte et l'analyse importante de données des utilisateurs. Les données peuvent provenir des différentes sources comme les cookies, les pixels de suivi et autres. L'analyse et le traitement de ces données mènent à la création de profils utilisateurs, permettant aux algorithmes de cibler les utilisateurs avec des publicités correspondant à leur profil. Les GAFAM jouent un rôle majeur dans la publicité sur le web, notamment avec la collecte et le traitement des données. Certains achètent des données utilisateurs en plus de celles qu'elles peuvent collecter elles-mêmes. Ainsi, elles peuvent augmenter l'attractivité de leurs emplacements, des publicités qu'elles mettent à disposition sur le web. Prenons l'exemple de Facebook, qui est le fil rouge de notre podcast. Les publicitaires travaillant avec le réseau social, doivent fournir un accès total à leur serveur interne, qui correspond à l'endroit où ils stockent les données sur leurs clients. Si les publicitaires refusent, et ils ne peuvent donc pas travailler avec Facebook et publier des publicités sur la plateforme. En procédant de cette manière, Facebook peut améliorer, entre guillemets, le ciblage de ses publicités en utilisant nos données. Enfin, le ciblage transforme des données brutes et une analyse des données permettant d'optimiser l'efficacité de la publicité en ligne. Je vais laisser maintenant Fanny vous parler de l'article qu'on vous présente.
Comme je l'ai dit précédemment, nous allons vous présenter un article de Pixel Tracking, qui est un blog spécialisé dans le domaine de la surveillance, alimenté par un ancien de l'ADTech, passionné des médias et des nouvelles technologies, comme nous pouvons le lire sur le blog. Cet article, publié le 3 août 2021, s'intitulant « Avec les signaux résilients de Facebook, la surveillance publicitaire évolue » ou « Comment Facebook contourne vos protections contre le tracking avec la complicité des annonceurs ?» explore le sujet de la publicité sur Facebook. Donc à l'heure du numérique, les géants comme Facebook cherchent de plus en plus à espionner notre activité sur le web, notamment grâce à la publicité ciblée visant à étudier nos habitudes de consommation. Celle-ci permet d'aider leurs partenaires publicitaires en montrant qu'il fait gagner de l'argent aux annonceurs. Ainsi, pour protéger ses utilisateurs, de nombreux navigateurs comme Firefox ont mis en place des protections, aussi appelées AD bloqueurs ou bloqueurs de pub, qui permettent de bloquer les publicités et autres traceurs à la source. De plus, des navigateurs comme Safari suppriment les données du clic après 7 jours, ce qui fait que l'annonceur n'y a plus accès s'il décide d'agir après cette date. L'article explique aussi que l'ancienneté de ces traceurs rend beaucoup plus compliqué pour Facebook de mesurer notre activité sur les sites et applis des annonceurs. Ceci crée donc un problème pour les annonceurs. En effet, moins Facebook possède d'informations détaillées sur ses utilisateurs, moins les publicités seront visées, intéressantes et efficaces pour les publicitaires, et moins elles seront rentables pour ces derniers. Ceci crée donc ce qu'on appelle des trous d'informations. Néanmoins, le géant du numérique dispose d'une arme pour contrer ces bloqueurs, en partenariat avec les annonceurs. Il contourne ces bloqueurs via des signaux résilients, c'est-à-dire des outils de contournement de bloqueurs de pub. Différentes stratégies sont alors possibles. Via une API conversion, le transfert de l'information est bloqué vers Facebook, mais toujours possible vers un serveur interne au site de l'annonceur. Pour mieux comprendre ce concept qui est un peu abstrait, on va prendre l'exemple d'un vol en avion. Comme tout passager, on cherche généralement à voyager de la façon la moins chère et la plus rapide possible entre un aéroport de départ, ici le serveur du client, et l'aéroport d'arrivée, le serveur de Facebook. Or, la majorité des vols internationaux directs sont soumis à des taxes élevées entre aéroports. Ici, les taxes sont nos bloqueurs de pub. Ainsi, pour éviter de payer trop cher, le voyageur doit faire une escale dans un pays avant de reprendre un autre avion pour arriver à l'aéroport de destination. De même, ici, les informations ne pouvant arriver directement chez Facebook, elles sont envoyées vers un serveur interne, celui du publicitaire, ce qui est l'équivalent de l'aéroport de transit, pour ensuite être envoyées depuis celui-ci vers Facebook. C'est le principe de l'API conversion. De plus, il existe d'autres façons de contourner les bloqueurs qui dépendent de l'utilisateur lui-même. Ainsi, lorsqu'on se connecte sur une page web, généralement, on a une page de pub qui apparaît. L'utilisateur peut alors choisir de cliquer ou non dessus. S'il clique, il arrive sur la page de l'annonceur, ce qui va laisser une trace. C'est ce qu'on appelle un cookie, c'est-à-dire un petit fichier qui stocke nos informations personnelles dès que l'on consulte un site web. Sur ces sites, Facebook a installé un collecteur de cookies qu'on appelle le Facebook Pixel, afin d'obtenir les identifiants de la personne qui a cliqué. Facebook va ensuite utiliser ces informations pour programmer les algorithmes de la personne en question afin de lui proposer le style de pub qui lui plaît. Les programmes de fidélité, et autres formulaires remplis hors ligne, c'est-à-dire en présentiel, sont aussi un moyen de récolter ces infos, les convertir, puis les transmettre à Facebook. Vous allez maintenant écouter un extrait du JT 1945 de M6 sur les cookies.
On va accepter tous les cookies. Sur la fenêtre de gauche, là, on va les voir s'enregistrer un par un en direct.
Alors on voit que les cookies sont en train d'être enregistrés. Exactement. Sur mon navigateur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va très vite.
Des dizaines d'autres cookies s'installent en quelques secondes. Parmi eux, beaucoup sont issus de régies publicitaires. Celui-ci, par exemple, il m'attribue un numéro unique. Il permet de suivre ma navigation, car quand nous entrons sur un autre site...
On va retrouver notre cookie qui me donne mon numéro d'identification unique. Et on peut voir que c'est le même que précédemment, 1E88, etc. Ça veut dire que notre navigation sera enregistrée de la même façon par cette régie-là, qui ensuite pourra commencer à vous envoyer des pubs plus personnalisées.
Grâce aux cookies qui suivent mes visites, les publicitaires arrivent à mieux cibler les consommateurs et rémunèrent les sites internet en conséquence. Voilà pourquoi certains demandent de payer 1 ou 2 euros par mois en cas de refus des cookies. C'est tout à fait légal, à condition que le consentement de l'utilisateur soit éclairé et librement consenti.
Vous avez donc écouté un extrait du JT de M6 sur les cookies. Je laisse du coup maintenant Zoé vous parler de la publicité programmatique.
Donc, la publicité, c'est une forme de communication de masse dont le but est de capter l'attention d'une audience, ciblée au préalable. Les personnes que l'on cherche à toucher peuvent être des consommateurs, des électeurs, des utilisateurs et de manière plus générale, chercher à toucher un ou plusieurs groupes de personnes correspondant à un même profil établi au préalable. Donc la publicité, au sens que nous la connaissons aujourd'hui, est apparue dans les années 1830 lors de l'industrialisation, en apparaissant dans les premiers journaux. Puis au début du XXe siècle, avec la naissance en premier de la radio, puis de la télévision, la publicité affirme sa place dans notre quotidien. Au début des années 2000, l'ère du numérique apporte une nouvelle dimension à la publicité. En 24 ans, le marché de la publicité en ligne a atteint 60 milliards de dollars américains, selon un article de Yahoo Finance publié en septembre 2025 par Precedence Research, une entreprise canadienne spécialisée dans la recherche sur l'innovation. Initialement, la publicité était le fruit de la collaboration de plusieurs personnes réfléchissant aux meilleurs moyens de toucher des utilisateurs ciblés, afin de faire connaître, faire acheter ou donner envie de découvrir un produit, un service, une personne politique. La publicité, que nous appellerons non programmatique, pour faire une comparaison avec le concept que nous vous présenterons dans quelques instants, est le fruit d'une réflexion collective entre plusieurs personnes. L'apparition des algorithmes dans le monde de la publicité a rebattu les cartes. Avant toute chose, expliquons ce qu'est un algorithme. Selon le CNIL, un algorithme est la description d'une suite d'étapes permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée. La publicité programmatique s'est construite grâce à des algorithmes permettant de mettre en vente des espaces publicitaires numériques, sur des sites web par exemple. Cette méthode est automatisée grâce à des algorithmes et à l'utilisation des données que nous laissons en tant qu'utilisateurs sur le web. Ces algorithmes permettent de remplacer les régies publicitaires qui ont pour but de mettre en relation des annonceurs souhaitant diffuser des publicités et des entreprises de médias souhaitant mettre à disposition des espaces publicitaires. Cette phrase provient du cours de WE1 dispensé par Quentin Duchemin sur le capitalisme de surveillance. Les emplacements publicitaires sur le web sont mis aux enchères en temps réel. Les annonceurs intéressés par l'emplacement enchérissent et la plus grosse enchère l'emporte. On peut faire le parallèle avec le fonctionnement d'une vente aux enchères de terrain ou d'œuvres d'art, mais qui, elles, sont réalisées par des commissaires-priseurs et non des algorithmes. Les emplacements de publicité sur le web sont reliés à des métadonnées, URL, langue, thème, et à des données sur l'utilisateur qui dépendent du ciblage fait préalablement. Le placement des publicités sur les emplacements en ligne se fait rapidement à la suite de la fin de l'enchère. L'enchère a lieu en temps réel lorsque l'utilisateur accède au site web. Les publicitaires enchérissent grâce à des algorithmes afin de cibler l'utilisateur qui vient de se connecter. Finalement, la publicité programmatique a pour objectif que la bonne publicité atteigne le bon utilisateur au bon moment. Tout cela au meilleur prix pour l'annonceur. Vous allez maintenant écouter un audio sur la publicité programmatique dans le social media marketing.
Le programmatique facilite l'achat de placements publicitaires. Donc, contrairement au display traditionnel dans la publicité online, qui offre la possibilité de réserver en avance, la publicité digitale programmatique permet aux éditeurs de mettre en vente leur espace publicitaire dans une logique d'enchère où ce sont les acheteurs les plus offrants et parfois en temps réel. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'on entend la logique RTB, Real Time Bidding, d'accord ? Ils vont avoir accès effectivement à l'audience publicitaire. Et on va trouver un ensemble d'acteurs, un ensemble d'outils qui vont être utilisés entre l'annonceur et l'utilisateur final. Donc, on va trouver notamment les agences publicitaires, les trading desks, les éditeurs, les utilisateurs, mais des tonnes d'outils, avec notamment les ad serveurs, les ad vérificateurs, les demand side platforms, les sell side platforms, etc.
Cet audio provient d'un organisme de formation appelé TAAG sur le marketing en ligne. La publicité occupe donc une place importante dans notre environnement, qu'il soit en ligne ou hors ligne. Les algorithmes du modèle de publicité programmatique ont rendu la diffusion d'annonces simple et rentable, de sorte qu'aujourd'hui la publicité est omniprésente. Merci de nous avoir écoutés, nous vous souhaitons une belle journée. Notre contenu est sous licence CC by SA.
Merci beaucoup Fanny et Zoé. On va faire une première pause musicale avant de passer au second groupe.
Je crois qu'elle a brisé son cœur dans les mémoires des disques durs. Que reste-t-il de ses aventures? Elle avait les yeux des pixels dans son vulgaire. Je trouvais belle les secondes à la regarder. Sous son ombrelle se dénudait. Ça y est, j'ai mes complets bleus. J'ai préparé ma carte bleue. J'ai rendez-vous avec les filles aux yeux du computer qui brille. J'aime bien quand elles se déshabillent. Leurs seins pendus à mes guenilles. Faudrait jamais se dire adieu. Faudrait pas tomber amoureux. Mais moi je suis tombé en amour. Alors tous les soirs je la vois. Eva Maria qui que ce soit. Sur le canapé en velours. Elle me montre tout rien qu'à moi. Elle retire doucement ses bras. Et moi je vous jure, je la crois. Quand elle me murmure tout bas. Sur les webcams de nos amours. Nous deux on s'est dit pour. J'avais mis mon complet bleu quand j'étais tombé amoureux d'une dénudée pour les réseaux, d'une écriture cherchant ses mots pour donner au peuple la trique. Y a des codes barres philanthropiques qui s'impendent au fil des jours. Elle vend son quai sur les carrefours. Elle m'a piqué ma carte bleue, des pixels au fond de ses yeux. Mais j'ai perdu la connexion, alors je suis là comme un con. Échouer du virtuel.
sont nos fiels, des virtuels au goût du ciel. D'entre toutes les putains du net, les disparaît dans les tempêtes. Moi je cherche ma naufragée, mais comment faire pour la retrouver? Ce corps perdu dans les tempêtes, mon amour est parti toujours sur les webcams de nos amours. Mon amour, oh, mon amour, parti bouffé dans la matrice. Mon amour est éclaté, parti bouffé dans la matrice. Mon amour est éclaté. Hey, 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 hey.
C'était Damien 16, webcam de nos amours sur Graphite 94.9 et graphite.net. Je suis en studio avec Fanny Lesseau, Zoé Cosson, Mayanne Després et Timothée Meyer. À tous les quatre. On est en studio donc dans le cadre d'un cours émission, on va dire, du cours de l'UVWE1 Questionner le web de l'Université de Technologie de Compiègne. On a écouté Fanny et Zoé nous parler juste avant de publicité, du clip, du clic au concept. Et donc à présent, eh bien, on va écouter Mayanne et Timothée nous parler capitalisme de surveillance et surveillance de masse. C'est quand vous voulez.
Oui, bonjour. Donc nous, ça a été dit, c'est Timothée et Mayanne. Et on va vous parler d'un article et de comment il est possible de le lier à un des concepts que l'on a appris ce semestre. Donc d'abord, on va mettre en valeur un point de l'article. Notre article s'intitule « Le capitalisme de surveillance » a été écrit par Shoshana Zuboff. Donc d'abord, dans cet article, on parlera du contrôle de consommateurs avant de nous pencher sur le point du cours, la surveillance de masse. Donc d'abord, notre premier article, « Le capitalisme de surveillance » par Shoshana Zuboff. On va parler de notre article qui a été publié 2 ans avant le livre « L'âge du capitalisme de surveillance » par la même autrice. Et donc cet article est un aperçu de ce livre qui se lie à l'actualité, la sortie de Pokémon Go en 2016. On va chercher à détailler un point plus en détail, le contrôle du consommateur de par ces informations. Mais d'abord, qui est Shoshana Zuboff? Elle est née en 1951 aux États-Unis. Elle finalise son parcours éducatif par un doctorat en psychologie sociale à Harvard. Par la suite, elle donne le nom au capitalisme de surveillance, une nouvelle économie qui profite de la vente de données personnelles. En 2019, elle reçoit le Axel Springer Award, un prix récompensant des personnalités innovantes et façonnant la culture. Revenons maintenant à l'article. Avant les années 2000, la prise d'information des utilisateurs était mise en annexe, mais pas assez importante pour être réellement prise en compte. Cependant, en 2003, Google va déposer un brevet. Il s'agit d'un système de récolte d'informations personnelles pouvant être utilisé pour faire de la publicité ciblée.
À partir de là, a commencé une véritable course à l'information entre les géants du web, avec un seul objectif en tête, s'approcher des préférences des utilisateurs. La publicité ciblée est une méthode de publicité qui utilise les informations de l'utilisateur. D'après le contenu vu et aimé par l'utilisateur sur la plateforme, cette dernière collecte ses données pour mettre en avant des publicités susceptibles de plaire à l'utilisateur. La publicité ciblée a pour objectif de proposer des produits aux bonnes personnes, c'est-à-dire savoir quoi vendre à qui. Pour ce faire, les entreprises vont récolter des données sur des utilisateurs afin de créer des profils de consommateurs, profils qui vont permettre de savoir quels produits proposer à quelle personne. Néanmoins, il est beaucoup plus efficace de prédire les comportements et préférences des utilisateurs pour que ces derniers soient intéressés par les annonces. C'est ainsi que vient une solution pour les entreprises, construire eux-mêmes le comportement des individus. Si les entreprises peuvent contrôler les utilisateurs, leur comportement ne devient plus imprévisible et cibler la publicité est plus simple. La création de profils est un processus demandé par les grandes plateformes Meta, X, Netflix, pour pouvoir s'identifier et utiliser plus amplement la plateforme. Il est généralement demandé d'entrer une adresse mail et ou un numéro de téléphone, de créer un mot de passe et d'accepter des conditions d'utilisation. C'est un premier pas dans le contrôle. Il permet de relier depuis n'importe quelle machine connectée à Internet un individu avec un nom, pseudo, et après collecter ses données de comportement. Par exemple, Amazon demande aux utilisateurs qui souhaitent passer une commande sur leur site de s'identifier avec un compte existant ou en créant un compte. Ainsi, il reconnaît son utilisateur et peut collecter à son tour les données sur cet appareil.
Le contrôle de l'utilisateur ne lui est jamais clairement mentionné, mais est subtilement amené par des phrases précises qui nous attirent le regard ou des endroits recommandés pour une visite, selon nos préférences. Shoshana Zuboff donne l'exemple de Pokémon Go, un jeu dans lequel les joueurs se baladent sur une carte liée au monde réel, récupérant des récompenses a priori aléatoires selon l'endroit. Toutefois, Shoshana Zuboff explique que des enseignes payent l'application pour leur faire de la publicité en donnant des items et Pokémon intéressants dans ces endroits. Les joueurs vont donc être naturellement redirigés vers ces enseignes. Nous allons maintenant vous passer un extrait d'une interview de Shoshana Zuboff.
Now, in the real world, business customers paid Niantic Labs, the Pokémon Go company, paid Niantic Labs not for click-through, but for the real-world equivalent of click-through, which is called footfall. To actually get real bodies with their real feet into real business establishments so that their feet would go fall, 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 tap, tap, tap across the store or across the restaurant or across the bar in order to buy something.
Shoshana Zuboff vient d'expliquer dans son passage, dans cette interview, pardon, que les enseignes payent Pokémon Go pour que des Pokémon intéressants apparaissent dans leur enseigne afin que les utilisateurs de Pokémon Go s'y rendent et puissent acheter quelque chose dans ces enseignes. C'est une nouvelle façon de faire de la publicité ciblée. Ensuite, nous allons parler de la surveillance de masse. Tout d'abord, nous allons commencer par une définition. Amnesty International a défini la surveillance de masse le 18 mars 2015 par la surveillance de masse non ciblée et l'espionnage des communications électroniques et téléphoniques d'un grand nombre de personnes, parfois de pays entiers, en l'absence de charges suffisantes. Les charges mentionnées dans la définition sont des crimes que l'on reprocherait à des individus. La définition mentionne aussi l'objectif suffisant. Il faudrait donc avoir des raisons suffisantes pour se permettre de surveiller quelqu'un, des raisons liées à un crime. Donc, pour un État, faire de la surveillance de masse, c'est surveiller toutes les communications d'un pays ou d'une partie d'une population dans le but de réprimer les éventuels crimes, d'après Amnesty International.
Un cas de surveillance de masse se passe en 1992 aux États-Unis. La justice américaine ordonne à tous les opérateurs téléphoniques de fournir la liste de tous les appels depuis les États-Unis vers des pays qui seraient susceptibles de participer à du trafic de drogue. Ce programme s'appelle le USTO. C'est le premier programme de surveillance de masse américain, d'après le podcast « La surveillance de masse tous espionnés » publié le 15 juillet 2024 par Olivier Tesquier. Cela a eu pour but d'enrayer le trafic de drogue dans le pays, ne distinguant pas les utilisateurs entre eux, violant ainsi la vie privée de tous ceux qui ne sont pas concernés. Mais les États ne sont pas les seuls à pratiquer la surveillance de masse. À partir de 2003, les grandes entreprises privées du web, d'abord Google, puis YouTube, Amazon, utilisent aussi cette surveillance de masse sur leurs consommateurs. En effet, la Quadrature du Net a écrit en 2024 dans une action de groupe contre Google que les activités de l'entreprise, je cite, « se couplent à une surveillance de masse destinée à affiner l'emprise qu'il a sur nous ». Une partie du chiffre d'affaires des grandes entreprises du web se fait par la publicité. Par la surveillance des utilisateurs, il est possible de cibler les bonnes publicités en plus du contenu du site pour nous inciter à rester le plus longtemps possible sur la plateforme. Encore une fois, la Quadrature du Net, dans un article publié en 2018 cette fois-ci, intitulé « Pourquoi attaquer Google ?», va montrer comment sont utilisées les données issues de la surveillance de masse. Je cite « YouTube appartient à Google ». En effet, lorsqu'une vidéo est visionnée sur YouTube, dans 70% des cas, l'utilisateur a été amené à cliquer sur cette vidéo via l'algorithme de recommandation de YouTube. La récolte de données par la surveillance de masse permet une emprise certaine chez les utilisateurs pour les mener à consommer toujours plus.
D'après le cours de Quentin Duchemin sur le capitalisme de surveillance, il se base notamment sur trois grands acteurs, les États, les GAFAM et les industriels. Ils s'organisent et coopèrent tous ensemble pour plusieurs raisons, dont la croissance économique. Premièrement, les États et les industriels viennent ensemble numériser de plus en plus les différents secteurs, par exemple la santé ou la sécurité, pour garantir une meilleure prise en charge aux citoyens. Par exemple, Londres a mis en place un système de caméras de surveillance dans toute la ville pour la protection des citoyens. Les États et les plateformes, eux, s'organisent sur l'espionnage de masse et l'influence politique. Lors des campagnes, il est extrêmement fréquent de voir des politiciens se mettre sur les réseaux. Par exemple, en 2022, des candidats à la présidentielle comme Jean Lassalle, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron ont multiplié les publications sur la plateforme TikTok. Ensuite, les GAFAM et les industriels vont coopérer pour leurs propres objectifs. Les industriels vont mettre en location des infrastructures pour que les GAFAM pratiquent leur surveillance et récolte d'informations. Enfin, les trois ensemble profitent d'une croissance économique et d'une montée de pouvoir sur la base de la collecte d'informations. Un exemple flagrant se passe aux États-Unis, où à l'approche de l'élection de Donald Trump, en 2024, des GAFAM viennent changer même leurs règles sur leur plateforme, notamment Meta. De plus, le président est lui-même à la tête d'une entreprise, The Trump Organization. Nous allons maintenant vous passer un extrait de l'interview de Shoshana Zuboff sur son livre « L'âge du capitalisme de surveillance » publié en 2018.
Understand that Pokemon Go was not some happy little game that just got launched into the world by a toy company or something. When they decided to bring Pokemon Go to the public, they didn't want to bring it as a Google game. They brought it to market as Niantic Labs, which no one had ever heard of.
Ici, Shoshana Zuboff explique que Google a demandé à une compagnie de publier Pokémon Go pour rendre Pokémon Go plus attractif et notamment cacher la collecte d'informations par Google. Ceci conclut notre podcast qui est sous licence CC by SA. Merci de nous avoir écoutés tous les deux sur le sujet du capitalisme de surveillance.
Merci.
Merci Timothée, merci Mayanne. Allez, seconde pause musicale. Vous nous avez demandé du Nirvana, alors c'est parti.
I never lost control. Your face.
Eh bien, on est de retour, enfin non, on était déjà sur Graphite, mais on est de retour à l'antenne, donc avec Fanny, Zoé, Mayanne et Timothée pour une petite phase de questions liées à leur présentation précédente. Donc pour rappel, Fanny et Zoé nous ont parlé notamment de publicité et de publicité algorithmique et ciblée. Mayanne et Timothée, de capitalisme de surveillance et de surveillance de masse. Alors Zoé et Fanny, la première question que je vous relaie, donc ce sont vos collègues qui vous ont écouté et donc qui ont travaillé à vous poser cette question. Cette question, c'est est-ce que finalement... cette question, c'est est-ce qu'il y a des... vous nous avez parlé des réseaux sociaux qui fonctionnent par la collecte de données et la publicité. Est-ce qu'il y a des réseaux qui fonctionnent différemment? Est-ce que c'est systématique?
Du coup, pour répondre à la question, il existe certains réseaux sociaux. On peut citer notamment Mastodon, qui est du coup un réseau social qui fonctionne comme X. Et il se distingue par son modèle décentralisé et open source. Les publications, elles s'affichent dans l'ordre chronologique dans lequel elles ont été postées. Et ce sont nos abonnements qui décident ce que nous voyons et non un algorithme. Donc, en parlant de Mastodon, du coup, on a un exemple d'un réseau social qui est différent du fonctionnement de Facebook. Après, il n'est pas non plus très connu et aujourd'hui, on peut peut-être remettre en question si c'est efficace ou pas pour l'utilisateur de voir que les publications de ses abonnements ou non.
Ouais, effectivement, ça dépendra de ce qu'on entend derrière efficacité. On pourrait dire aussi que c'est moins addictif. Donc moi qui suis utilisateur de Mastodon, je peux vous le confirmer. Donc ça peut être vu comme un avantage ou un inconvénient. Merci de cette précision. Et puis allez, je vous prends une deuxième question, comme on est un peu moins nombreux cette semaine. Est-ce que vous savez s'il y a eu des études ou des choses qui montrent que finalement tout ce système de publicité, est-ce qu'il marche? C'est-à-dire est-ce que les industriels, grâce à ça, arrive à vendre plus de produits que si c'était de la publicité non ciblée? Je ne sais pas si vous avez quelques éléments, c'est une question un peu ouverte.
Alors, on n'a pas de chiffres précis, il n'y a pas eu d'études précises qui a été faite sur, par exemple, la comparaison entre est-ce que c'est plus efficace de mettre des pubs pas forcément visées ou des pubs ciblées, comme on l'a cité avant. Mais la plupart du temps, on remarque quand même que sur nos réseaux sociaux, toutes les pubs qu'on a et qui reviennent, et c'est pareil justement pour les feeds sur les algorithmes des réseaux sociaux, généralement, ce sont des vidéos qui nous plaisent et sur lesquelles on a eu des interactions. Donc la plupart du temps, ce sont des pubs qui nous ont plu. Moi, par exemple, je sais que ça m'est déjà arrivé d'être en train de jouer à un jeu et d'avoir une pub sur un jeu. Et bizarrement, c'était quelque chose qui m'a directement attiré et j'ai cliqué et j'ai téléchargé l'application. Donc non, on n'a pas de retour d'études sur, au final, si ça a vraiment un gain bénéfique. Mais comme on l'a dit auparavant, en tout cas sur les réseaux sociaux comme Facebook, au niveau des GAFAM, ça a quand même fait 600 milliards de dollars. Ce qui veut dire aussi que s'il y a eu un énorme profit des GAFAM, c'est-à-dire que les publicitaires ont continué à investir et donc qu'ils ont eu quand même un retour quand même assez positif pour eux.
Eux, ils y croient au moins. Enfin, eux pensent que ça marche.
Que, oui.
Sinon, ils ne paieraient pas aussi cher et les GAFAM ne seraient pas aussi puissants. Donc, on a au moins cet élément. Eh bien, merci à toutes les deux. Je me propose donc maintenant de poser une question à Timothée et Mayanne sur leur partie. Donc, vous nous avez parlé de capitalisme de surveillance de masse. Et donc, le groupe de vos collègues qui a écouté votre émission demande si, finalement, il y a aussi des avantages ou des bénéfices à la surveillance de masse. Vous en avez fait, on en fait en cours une description critique, on en explique un peu les mécanismes et pourquoi ça pose problème dans notre société. Mais finalement, est-ce que c'est seulement négatif, pour reprendre la façon dont la question est posée?
Alors, c'est plutôt difficile de savoir si c'est négatif ou positif ou de donner une réponse précise et claire à cette question. Parce que d'un point de vue d'un État, faire de la surveillance, ça leur rapportera que peu de points négatifs, alors que du côté des surveillés, ça leur rapportera peu de points positifs. Et comme nous, on a un point de vue de surveillé, on aura plus la tendance à relever des points négatifs, alors que peut-être à plus grande échelle, on pourrait trouver le juste milieu.
Ok, merci. C'est effectivement, il y a toujours une sorte de contrat, parce que tu dis on ne trouve pas de point positif. Ce que va nous vendre en quelque sorte l'État, c'est plus de sécurité ou un système de santé optimisé ou des choses comme ça. Donc c'est en gros ce qui fait qu'on va accepter un peu le deal de la surveillance. Donc on voit qu'il y a forcément un volet positif en quelque sorte, au moins présenté. Puis après, comme tu l'as dit, bah, c'est peut-être un peu chacun dans sa situation qui va voir si l'équilibre nous paraît assez respecté entre la quantité de surveillance que ça nous empêche peut-être de faire, qu'on aimerait bien faire, et puis ce qu'on gagne par ailleurs. Ouais, ça vous va ?
Oui.
Ok. Vous n'avez pas envie de rentrer en débat avec moi sur pendant en direct, voilà. Okay. On garde ça pour les derniers TD, les derniers cours.
VIP.
Ok. Eh ben, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire, sinon ce salut-là. Merci. Merci à tous les quatre de votre présentation.
Merci beaucoup.
Merci à vous de nous avoir invités.
Donc on était sur Graphite et c'était le cours WE1 dont les étudiants présentaient le résultat de leurs travaux. Et puis, on va se retrouver d'ici une grosse dizaine de minutes. Donc on sera avec Axel, Quanmin, Clément et Raphaël pour continuer des présentations autour du cours WE1. On parlera notamment logiciel libre et puis YouTube. On continuera un peu sur les mêmes thématiques. Allez, rendez-vous dans 10-15 minutes à peu près.